Si tu es d'accord, je vais prier pour toi et pour nous, et puis on va t'écouter. Alors prions. Seigneur, je veux te demander le secours de ton esprit sur Christian et sur nous. Sur Christian qui va maintenant exposer ta parole, donne-lui la sagesse, les mots, la clarté dans l'expression pour que nous puissions comprendre cette parole. Et je te demande aussi le secours de ton esprit sur nous, sur nos cœurs. Donne-nous d'être malléables, de nous laisser interpeller, de nous laisser transformer par cette parole. Je te prie de faire ce miracle maintenant. Amen.
Bonjour à chacun. Alors, j'ai bien aimé que ce que Jonathan a dit tout à l'heure. Hein. Les enfants ont leur histoire de la Bible et nous, on a notre histoire de la Bible. Ça me rassure un peu, c'est moins de pression. Nous sommes une semaine avant Pâques. Et donc, on va anticiper un petit peu ce matin, en parlant déjà de cet événement de Pâques, au travers du chemin de la crucifixion, dans la suite des textes prévus. Alors, si vous avez fait vos devoirs, vous avez lu le texte en avance, comme je l'avais suggéré la semaine dernière. Mais c'est pas grave, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, on va lire quand même ensemble aujourd'hui. On va lire beaucoup de textes, en fait, bibliques, parce qu'il y a beaucoup de références importantes au travers de la parole, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et on va lire pas mal la parole de Dieu ce matin. Alors, on va commencer tout de suite. Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 32 jusqu'à la fin. Matthieu 27, 32 jusqu'à la fin. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et se moquaient et secouaient la tête, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui en disant « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il l'appelle Eli ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans la roche. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation de la Pâque, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Nous sommes ici juste après la mascarade de procès qu'on a vue la semaine dernière avec David. La cohorte entière s'était réunie, c'est-à-dire environ 600 hommes, ce qui est exceptionnel pour ce genre de cas, pour se moquer de Jésus, le flageller, l'humilier. Et puis, il l'emmène au lieu du sacrifice, sur la croix, à Golgotha. Ce texte est assez long, mais en définitive, si on regarde par rapport aux autres évangiles, il nous donne beaucoup moins de détails que les autres évangiles. Alors la tentation serait grande d'aller piquer un peu partout pour remettre tout ça ensemble, mais on va essayer de se concentrer uniquement sur le texte de Matthieu ce matin. Une autre remarque, c'est que le récit, il est quand même très sobre par rapport à la gravité des événements. C'est simplement les événements qui nous sont relatés. Les évangélistes, les 4, auraient pu très bien en rajouter. Parce que franchement, ce qui se passe là, c'est horrible. On n'imagine pas aujourd'hui une crucifixion. Mais c'est ça, ce n'est pas ça qui importe le plus. C'est ce qui se passe et les différents éléments qu'on rencontre durant ce passage. Après avoir rhabillé Jésus, les soldats l'emmènent en direction de ce lieu du crâne, Golgotha. La séance qu'il vient de subir est extrêmement violente. Flagellation, gifle. Et c'est probablement pour ça qu'ils prennent quelqu'un, qu'ils forcent Simon à porter ce bois avec Jésus, parce que lui-même, il est à bout de force. On estime que le bois qu'il devait porter faisait dans les 60 à 80 kilos. Après avoir subi de telles violences, alors on lui donne un peu d'aide. Arrivé au lieu du crâne, avant d'être crucifié, on lui propose une boisson un peu particulière, du vin mélangé de fiel, c'est-à-dire de la myrrhe et différentes épices, une sorte de boisson analgésique pour permettre au crucifié de souffrir un petit peu moins. Maigre consolation. Et ce n'est pas la gentillesse des soldats qui offre cette boisson. On sait que traditionnellement, c'était des femmes riches qui faisaient des bonnes œuvres en achetant cette boisson pour offrir aux crucifiés. Maigre consolation qu'un peu de boisson analgésique avec tant de souffrance. Mais Jésus refuse. Il veut garder toute sa conscience, tout son esprit. Au-dessus de sa tête, un écriteau, roi des Juifs, ce qui a pas mal irrité les pharisiens, les religieux. Petit pic de la part de Pilate, qui s'est fait tant manipuler par ses chefs religieux, qui s'est laissé faire pour la bonne cause, surtout pour ne pas perdre sa place. Alors il lance une petite dernière pique. Roi des Juifs. Maigre consolation, là encore. Et puis pour ces soldats qui sont là, qui le crucifient, qui sont au pied de cette croix, se partager les vêtements, c'était normal, c'était la tradition. Et puis, qui est ce Jésus ? Parmi les 30 000 environ, plus ou moins, crucifixions qui auront lieu ou qui ont eu lieu pendant cette période en Palestine. Jésus, c'est un parmi des dizaines. Parce que les Romains étaient super stricts et ils ne voulaient aucune sédition. Et si on était à peine soupçonné de sédition, alors, boum, crucifixion. Pour l'exemple. Ça me fait penser à des histoires qu'on entend aujourd'hui encore en Corée du Nord, par exemple. Un soupçon de sédition et hop, on est emprisonné, maltraité, pour n'importe quelle raison en fait. Les Romains, c'était comme ça. Il fallait l'ordre absolu et il fallait remettre tout le monde au pas tout de suite. Alors Jésus, c'est presque un parmi tant d'autres. Pourtant, cette crucifixion-là, elle est tellement spéciale. Il y a tant de choses incroyables qui se passent pendant ce temps de la crucifixion. Et la première chose dont les soldats n'ont aucune conscience, c'est qu'ils mettent en pratique des prophéties bibliques. Psaume 22, les versets 17 à 19, écrit plus de 1000 ans avant ces événements. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me gardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Écrit plus de 1000 ans avant ces événements par le psalmiste. Et on va voir à plusieurs reprises que, bien avant que tout cela se passe, Dieu avait prévu tout cela pour notre salut. On voit dans la suite qu'il y a deux groupes de moqueurs, deux groupes de personnes qui se moquent de Jésus. Il y a les passants, il y a la foule qui l'insulte, qui secoue la tête. Ah, mais franchement, mais qu'est-ce qu'il a fait ce gaillard ? Et on l'insulte et on l'humilie. Et ça, c'est les gens de la ville, probablement de Jérusalem, et puis les pèlerins venus pour la Pâque. Et puis un deuxième groupe de personnes, eh bien, c'est les religieux, les chefs religieux. Ah, tu es le Fils de Dieu. Mais prouve-le. Descends de la croix. Il a sauvé les autres et il n'est pas capable de se sauver lui-même. Ridicule. ridicule. Et malgré ces insultes, Jésus ne réagit pas. Il aurait pu, avec tout ce qu'il a fait, tous les miracles, s'il a pu marcher sur l'eau, multiplier les pains et les poissons, ne pouvait-il pas simplement descendre de cette croix ? Bien sûr qu'il aurait pu. Bien sûr qu'il aurait pu. Mais s'il l'avait fait, on ne serait pas là aujourd'hui. S'il l'avait fait, il n'aurait pas pu nous sauver. Et c'est l'ironie de ces insultes. Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. C'est vrai. Pour sauver les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Il ne peut pas échapper à cette mort-là. Ce n'est pas possible. Sinon, pas de salut. Et encore une fois, dans le psaume 22, trois versets, par rapport à ces insultes. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. Encore un texte écrit plus de 1000 ans avant. Dieu savait cela. Dieu savait qu'il y aurait humiliation. Et pourtant, il a permis que Christ aille jusqu'à la croix. Et cette crucifixion nous ramène aussi à un autre texte. Dans l'Exode, au chapitre 12. Exode, chapitre 12, l'institution de la Pâque. Juste quelques versets, on ne va pas lire tout parce que c'est assez long, et il y a encore d'autres textes à lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et les linteaux de la porte de la maison où l'on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On en mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. La suite du texte nous dit que ce sang sur les linteaux, c'est pour protéger le peuple juif parce que le dernier jugement sur l'Égypte est en train d'arriver. La mort des premiers-nés. Et nous en sommes aussi là dans notre texte. Le jugement de la Pâque sur Jésus, l'agneau, sans défaut et sans tache, immolé pour nous. Paul, dans Romains 3, 25, nous dit... C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés comme auparavant au temps de sa patience. Dès avant la fondation du monde, Jésus était désigné pour être cet agneau pour nous. Mais dans tout cela, est-ce que Dieu est présent ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Jésus est tout seul sur cette croix? les ténèbres se mettent sur tout le pays. Dans la culture juive de l'époque, les ténèbres, c'était signe du jugement de Dieu. Elle signifie donc deux choses. D'une part que Dieu est présent, et d'autre part qu'il y a un jugement à ce moment-là. Même si il y a un silence de la part de Dieu, il est là, en témoin de ce qui se passe. À ce sujet, je vous invite à lire un excellent livre de Daniel Bourguet, « Le silence de Dieu durant la Passion ». Très très intéressant livre sur tout ce silence qu'on pourrait croire de Dieu, comme si Dieu était parti pendant le temps de la Passion. Des fois, on aurait tendance à croire ça, mais ce n'est pas vrai. Dieu est là et il souffre. Et puis dans ces versets, il y a ce cri « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il le fallait. Parce qu'il fallait cette séparation. Parce que Dieu ne pouvait pas faire autrement pour nous sauver. Jésus le sait. Dieu le sait. Mais tous ceux qui sont autour de lui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Seul Jésus est conscient que ses paroles seront répétées dans les temps futurs et de l'importance. Pourquoi est-ce qu'il dit cela à voix forte ? Tout simplement pour nous, comme témoignage aujourd'hui. Pour les gens du moment qui l'entendent, ça ne veut rien dire. Ah, il appelle Élie. Il appelle au secours. Élie étant la figure emblématique de l'Ancien Testament qui devait revenir. Les Juifs attendaient le retour d'Élie comme un messager de Dieu. Il appelle Élie. Bon, on va voir s'il va le sauver. Mais pour nous aujourd'hui, ça a une autre importance. De Corinthiens 5, 21 nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et dans Galates 3, les versets 13 et 14, il nous est dit ceci, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui nous a été promis. » Mais toutes ces choses-là, on ne les comprend qu'après la croix. Pour tous ceux qui sont témoins à ce moment-là, ça ne veut pas dire grand-chose. Un cri sur une croix qui résonne depuis 2000 ans. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et Jésus a dû faire des terribles efforts pour faire ce cri, dire cette phrase. Parce que cette position-là, suspendue sur les bras, avec la cage thoracique complètement compressée, quasi impossible de respirer. Alors pour dire une telle phrase, il avait encore de la force et de l'énergie. Et puis il crie une dernière fois et il ne meurt pas, il rendit l'esprit, nous disent les quatre évangiles. Les quatre évangiles. Il n'est pas juste mort, il rendit l'esprit. Alors d'un point de vue technique, Jésus meurt en fait assez rapidement. Normalement, les crucifiés, ils restaient 2, 3, 4 jours sur la croix avant de mourir. Très très long supplice. Donc, ça a été relativement rapide pour lui, si on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, moi, ça me parle au travers d'un autre texte. J'en lis beaucoup ce matin, mais c'est important. Dans Jean 10, verset 17, Jésus dit ceci à ses disciples. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et ce qui peut paraître quelque chose d'inévitable, d'inéluctable, cette crucifixion, cette condamnation, ce texte il nous dit que Jésus, lui, il est aux commandes. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il est maître de la situation. J'ai presque envie de dire, il décide l'heure de sa mort. Et il faut qu'il meure avant le début du sabbat pour pouvoir être enseveli et qu'il y ait cette résurrection 3 jours plus tard. Donc ce n'est pas un hasard s'il meurt à ce moment-là. Ce n'est pas un hasard si... Ce n'est pas parce qu'il était faible. Ce n'est pas parce qu'il n'avait plus de force. C'est parce que dans le plan de Dieu, c'était prévu ainsi. Dieu est aux commandes. Dieu maîtrise la situation de A à Z, malgré l'horreur de ce qui se passe. Et c'est encore plus fort quand on reprend le même texte dans l'évangile de Jean, où il nous dit, une des dernières phrases de Jésus, « Tout est accompli. Tout est accompli. » Quand Jésus eut pris le vinaigre qu'on lui offrait juste après ce premier cri, il dit « Tout est accompli » et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Le plan de Dieu est parfait. Et cette croix, ce n'est pas un accident de l'histoire. C'était prévu. Parce que sans la croix, pas de salut. Sans effusion de sang, pas de pardon. Et au moment de la mort de Jésus, des événements assez incroyables se passent. Tremblement de terre, le voile qui se déchire, les saints qui ressuscitent. Il est le seul à parler de cela. Le seul des autres, les 3 autres évangélistes ne parlent pas de cette résurrection ou de ce tremblement de terre de la même manière. Matthieu s'adresse plus particulièrement aux Juifs, au peuple juif, aux gens d'origine juive. Et pour eux, ça leur parle. Pour eux, ça leur parle. Tremblement de terre, une nouvelle fois, signe de la présence de Dieu, mais aussi signe du jugement de Dieu. Dans la culture juive, c'est tout à fait normal. On comprend. Un tremblement de terre, c'est signe de la présence et du jugement de Dieu. Et au moment de la mort de Jésus, il y a ce signe du jugement de Dieu. Et puis le voile qui se déchire, eh bien c'est ce voile qui était le voile de séparation dans le temple, dans le tabernacle, entre le lieu saint où les sacrificateurs pouvaient faire leur office au quotidien, offrir de l'huile et de l'encens, les pains. Mais il y avait ce voile qui séparait le lieu très saint, ce lieu où seule l'arche était posée, l'arche de l'alliance entre Dieu et les hommes et son peuple. Et ce lieu n'était visitable qu'une fois l'an par le souverain sacrificateur, le chef des prêtres de l'époque, avec du sang. avec le sang d'un agneau, qu'il devait mettre sur les cornes et sur les bordures de l'arche. Il devait asperger l'arche avec ce sang, signe de purification. Donc depuis l'Exode, depuis la sortie d'Égypte, il y avait ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et ce voile qui se déchire, encore une fois, pour des Juifs, c'est quelque chose d'incroyable. Et ce n'est pas un truc normal, il se déchire du haut jusqu'en bas, pour prouver que ce n'est pas de la main des hommes que ça se passe, mais vraiment c'est Dieu qui déchire ce voile. Et le message, il est clair, il n'y a plus de séparation, il y a un accès libre. Alors nous, on le comprend bien aujourd'hui, parce qu'on a toute la Bible. À l'époque, ça devait laisser perplexe, vraiment. Le voile qui se déchire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pour nous, c'est clair. La séparation est terminée. Christ a tout accompli. Encore un texte dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons un souverain sacrificateur qui nous a ouvert la voie. Voilà ce que représente ce voile déchiré. Et puis les morts ressuscités, c'est un peu particulier, il y a, comme je l'ai dit, que dans l'évangile de Matthieu que ça se trouve. Et encore une fois, c'est quelque chose qui s'adresse plus particulièrement au peuple juif. Parce que depuis longtemps, il y a une tradition qui dit qu'au jugement dernier, les morts ressusciteront. On le trouve dans plusieurs textes de l'Ancien Testament. Il y a entre autres un long texte dans Ézéchiel, chapitre 37, les versets 1 à 14, mais on ne va pas le lire maintenant, parce que ça ferait un peu long. C'est beaucoup de détails, mais je lis juste dans Daniel. Le prophète Daniel, au chapitre 12, deux versets. En ce temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Encore une fois, signe de jugement et signe très fort pour des juifs religieux qui connaissent ces textes. Un message qui dit « Maintenant, c'est le temps ». Ces prophéties, elles sont là, elles sont accomplies. Que ce soit Ézéchiel, que ce soit Daniel, ou beaucoup d'autres qui parlent de cela dans l'Ancien Testament. C'est donc un message plus particulièrement adressé aux Juifs qui vont lire ce récit que pour nous qui avons peut-être un peu plus de peine à comprendre avec la distance. Et puis on arrive tranquillement à la fin de notre texte. Et encore une chose surprenante, une nouvelle ironie de ce récit. D'un côté, Jésus qui subit les moqueries des pharisiens, des religieux, de ceux qui auraient dû comprendre, de ceux qui auraient dû croire en lui. Et puis voilà que les premiers à constater quelque chose de divin chez Jésus, à part ses disciples, c'est des soldats romains. Des soldats romains, les premiers croyants après la crucifixion. Certainement, cet homme était fils de Dieu. Parce que eux, ils croient dans les signes. Hein, les Romains qui sont polythéistes, ils ont cette sensibilité. Alors le tremblement de terre, les ténèbres, et Jésus qui meurt ainsi, ça peut être que le Fils de Dieu. Ça peut être que le Fils de Dieu. Et toute l'ironie de cette histoire-là, c'est des païens qui reconnaissent Christ comme fils de Dieu. Des pires païens, c'est l'envahisseur, c'est l'ennemi d'Israël, et ce sont les premiers à reconnaître que Christ est fils de Dieu. Et c'est déjà la porte qui s'ouvre pour nous, c'est déjà ce qui va se passer plus loin dans les Actes, avec Corneille, avec d'autres. Mais les prémices de l'ouverture du salut pour tous, et pas seulement pour les Juifs, ils sont déjà là. Et puis il y a ces femmes qui observent à distance. C'est étonnant, hein ? À part dans l'évangile de Jean, on voit que Jean est apparemment présent à la crucifixion. Les autres disciples ne sont pas trop là. Encore une fois, il faut des femmes pour sauver la situation. Et je ne suis pas féministe. Mais voilà, les femmes, elles ont osé rester. Elles ont osé accompagner Jésus jusqu'à la fin. Elles regardent ce qui se passe, elles l'observent. Elles vont observer même jusqu'où il va être mis au tombeau. Et on le verra dimanche prochain, c'est les femmes qui vont être les premiers témoins de la résurrection. Elles qui, dans la société, n'avaient pas de place, elles qui, dans la société, sont considérées comme rien, hormis dès le moment où elles enfantent, une femme juive n'a droit de citer que dès le moment où elle a eu des enfants. Eh bien là, ce sont des femmes qui sont présentes et qui observent, et qui vont rester fidèles à Christ jusqu'au tombeau. Les disciples, eux, dans la nature. Dans la nature. Personne. Les gars, là, c'est fini. Il n'y a plus personne. Il y en a quand même un, Joseph d'Arimathée, qui ose aller voir Pilate en lui demandant le corps. Qui ose se mettre un tout petit peu en avant. Et il prend des risques, puisqu'il est membre du Sanhédrin. Il est reconnu par tous, il ose aller demander ce corps. Et on voit que, dans l'évangile de Jean, on voit qu'il est aidé par Nicodème. Vous vous rappelez de Nicodème ? Jean 3, celui qui vient poser des questions à Jésus de nuit, surtout pour ne pas être vu, pour ne pas qu'on le reconnaisse. Et lui aussi, il ose. C'est ses témoins de l'ombre, ses disciples qui était en retrait jusqu'à présent et qui, voilà, ose faire le pas à ce moment-là. Les disciples de l'ombre. Et il y en a probablement beaucoup d'autres à ce moment-là. Et le récit de cette crucifixion se termine avec ce dernier rebondissement. Il faut faire garder le tombeau. Au cas où. Les religieux juifs sont tellement bloqués dans leur pensée que Jésus est un imposteur. Ils ont tellement peur que éventuellement quelque chose de hors de leur contrôle se passe. Il faut faire garder le tombeau. Cette imposture serait pire que la précédente. si d'aventure il venait à ce que ce corps disparaisse. Impossible pour eux de croire quoi que ce soit d'autre. Et voilà encore une fois ce pauvre Pilate qui pensait être débarrassé. Voilà, c'est bon, il est crucifié, on n'en parle plus. Et ces religieux juifs qui reviennent, non, mais attends, il faut faire quelque chose là, ça ne va pas du tout. Je ne sais même pas imaginer Pilate qui doit être tellement... Encore eux, ils ont encore des trucs à me demander. Ça ne suffit pas là. Non, écoute, on veut s'assurer du truc là. Faut pas qu'on se loupe. Faut être sûr que il n'y a rien qui est hors de notre contrôle qui va se passer. Et pourtant, on le verra dimanche prochain, ça se passe. Malgré eux, malgré leurs précautions. Faire garder un tombeau, ça va même jusque, le texte le dit, ils vont sceller la pierre. Ils scellent la pierre, ils mettent un sceau pour être sûr. Au cas où les gardes s'en dorment. Quelqu'un viendrait rouler une grosse pierre comme ça, plusieurs centaines de kilos, c'est pas très discret. Hein. Donc même s'ils sont endormis à côté, les gars, ça s'entend. Quoi. Mais non, il faut sceller la pierre, il faut mettre des gardes pour être sûr. Alors j'aimerais bien vous parler de la résurrection, mais c'est Jonathan qui va le faire la semaine prochaine. Parce que là, c'est plutôt dramatique ce qui se passe, n'est-ce pas ? Il y a quelques années, pour ceux qui se rappellent, on avait fait un spectacle de Pâques qui s'appelait Post Tenebras Lux. Après les ténèbres, la lumière. Là, on est dans les ténèbres. Là. Et pour ceux qui vivent ça, ils sont dans les ténèbres. C'est la fin. Jésus est mort. Nos 3 ans passés avec lui à le suivre, ça se termine comme ça. Dans un tombeau, avec une pierre roulée devant. Et j'imagine le doute et l'incompréhension des disciples. Eux qui imaginaient que Jésus allait rétablir le royaume d'Israël, qu'il allait chasser les Romains, qu'il allait prendre le pouvoir. Voilà qu'ils se retrouvent dans un tombeau. Tout est terminé. Et on voit plus tard dans les textes que les disciples, ils sont terrés dans une pièce, ils se cachent, ils ont peur des conséquences pour eux, parce qu'ils ont été disciples. Et c'est vrai que ce tableau est très sombre, mais comme on l'a vu en même temps, il fallait en passer par là. Depuis des siècles, c'était prévu. Ce qui se passe à la croix n'est pas un hasard. C'est pas un prophète qui a débarqué comme ça, comme tant d'autres, et qui a commencé à se mettre en avant et qui a apporté une nouvelle doctrine. C'est Dieu qui, dès avant la fondation du monde, avait prévu d'offrir son Fils unique en sacrifice pour nous. Donc c'est pas un plan d'un gars dans un coin par hasard, c'est un plan qui se déroule sur des siècles. Sur des siècles. Environ 3500 ans entre la première Pâque et celle que nous venons de lire. 3500 ans. Pour nous, ça fait loin. Ça fait long, mais le plan de Dieu se déroule parfaitement. Au temps de Dieu. C'est pas un hasard. Peut-être que tu es là, tu connais cette histoire, tu l'as entendue depuis longtemps, tu y crois pas, tu... Et réfléchis. Tu connais quelqu'un qui a réussi à dérouler son plan sur plus de 3500 ans ? Tu connais quelqu'un qui a prévu un truc pareil ? Mais personne, ça peut être que Dieu. Cette histoire ne peut être que vraie. Parce que d'un point de vue humain, c'est inimaginable. Personne ne penserait offrir son fils en sacrifice pour sauver les autres. Si, à l'époque, ça se faisait, on offrait des sacrifices à Moloch ou à d'autres dieux, on offrait les enfants en sacrifice, mais c'était pour son propre salut. C'était pour sa peau. Là, c'est pour tout le monde, prévu de toute éternité, par Dieu. Réfléchis. Et si tu as des doutes, vraiment, je te relis ces textes. Regarde la parole. Jonathan l'a dit tout à l'heure, c'est la parole de Dieu. Et nous, on y croit. Je crois que la parole de Dieu est vraiment dans ce livre. Et il y a toutes les preuves dans ce livre pour te dire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort à ta place sur la croix.
Dans une semaine, c'est Pâques. Et on l'avait dit, hein, Pâques, c'est une mort qui donne la vie et une vie qui détruit la mort. Christ meurt pour nous donner la vie et il ressuscite pour détruire la mort. Une mort qui donne la vie et une vie qui détruit la mort. Je vais prier. Seigneur, quelle grâce, quel amour. Seigneur, par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons recevoir le pardon des péchés. Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons recevoir la réconciliation avec le Père. Merci parce que Christ a accompli ça sur cette croix il y a 2000 ans. Merci parce que tout concorde. Merci parce qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute. Alors Seigneur, permets-moi, permets-nous de faire de cette croix le centre de nos vies, de placer notre espoir, notre foi, notre confiance sur cette croix pour que nos péchés soient effacés. Amen. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. Ces paroles qu'on vient de lire, qu'on vient d'entendre, elles nous touchent profondément. Elles nous touchent spirituellement, elles nous touchent intellectuellement, mais elles nous touchent aussi émotionnellement. Et on veut maintenant répondre à ces paroles par ce chant. Jésus-Christ, j'invite l'équipe des musiciens et des chanteurs à reprendre place et on peut se lever pour entonner ce chant Jésus-Christ.
À nouveau je rêve. pour la croix, Jésus. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis une mise.